Cette émission vous est présentée avec la très gracieuse participation de Lotera, Bob KRC, Alban, Digital Time, Guillaume Père, Geoffrin Barbotet, Hervé Aguilaniedo, Le Gem, Nicolas et Pierre Damien. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous propose de vous résumer toute l'actualité tech, internet et gadgets. On suit pour vous tous les blogs, tous les podcasts, toutes les infos sur tout ce qui s'est passé ces deux dernières semaines et on vous les résume en, allez, 1h15, 1h30 avec des intervenants intelligents, propres sur eux, sympathiques, qui ont toutes les qualités, quoi. Je suis Patrick Béja, j'essaye d'être également propre sur moi et parfois un petit peu intelligent, mais on en a deux autres animateurs qui sont eux, qui ont toutes ces qualités à coup sûr, c'est Jeff Clavier, que vous connaissez bien depuis San Francisco. Comment vas-tu, Jeff ?
Ça va bien, très heureux d'avoir vu l'équipe de France gagner ce matin contre Nigeria. La première mi-temps était un peu dure, mais la deuxième est de bon augure, donc on croise les doigts.
D'accord, très bien. Effectivement, j'ai suivi ça, la fin du match avec ma belle-mère et ma femme et des, parce que figurez-vous que c'est l'anniversaire de ma belle-mère et malheureusement j'ai dû quitter le dîner pour venir faire l'émission. C'est tout à fait malheureux. Ma belle-mère est une femme absolument adorable. Donc voilà, ce que je ne sacrifie
tu
pas.
Tu dis ça parce que tu viens juste de te marier en fait.
Mais non, pas du tout. Elle est très gentille. Et
on
donc
en parle
oui,
dans 15 ans.
Mais on a. Mais donc, on a vu effectivement la fin du match. Et donc, tu me disais, Jeff, parce que moi, je connais rien du tout au foot, que c'est Algérie contre l'Allemagne et que donc la France va tomber contre le gagnant de ce match-là.
Contre le gagnant du match, oui. Et c'est 0-0, ouais. 3 minutes, ça vient juste de commencer en fait.
Et donc, toi, tu vas regarder le match en même temps, très bien. Tu pourras nous tenir au courant. Mais j'espère que c'est l'Allemagne qui va gagner parce que si c'est l'Algérie, ça va être le pays, comme je disais avant de commencer l'émission, il va être déchiré, quoi. Moi, j'étais. Ah, bon, on va quand même dire bonjour à l'autre intervenant qui est lui aussi
oui,
propre
quand même.
Et sympathique et intelligent. c'est Thomas qui nous rejoint lui aussi. Alors, t'es à San Francisco ou je sais plus?
Ouais, je suis à San Francisco. Ouais, salut tout le monde. Je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui.
Alors Thomas, qui est l'un de nos intervenants, de nos animateurs d'un jour, puisque c'est un gros soutien du Patreon. Et là, vous allez me dire, mais enfin Patrick, tu n'invites que des gens du Patreon, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien non ! Figurez-vous que là, en plus, Thomas est doublement qualifié pour participer à l'émission, même si j'ai toujours grand plaisir à recevoir les intervenants d'un jour, les animateurs d'un jour, puisque Thomas est non seulement développeur dans une société qui fait un produit que moi j'adore, puisqu'il est développeur chez Pocket, hein, c'est ce que tu me disais, Thomas ?
Exactement, ouais. Développeur Android chez Pocket.
Voilà. Et qu'en plus, il était à Google I.O. Je crois que tu as assisté donc en direct à la conférence, les présentations aux annonces de Google pendant cette keynote, cette introduction de la conférence, et tu étais dans la salle, si je ne me trompe pas.
Exactement, ouais. Alors en fait, pour être exactement précis, j'étais pas dans la salle même. On nous a mis dans une salle à côté parce que la salle même était pleine et que on y reviendra peut-être un petit peu. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'organisation cette année, c'était pas tout à fait parfait. Mais bon, c'était quand même une super conférence et donc j'y étais cette année comme l'année dernière et l'année d'avant.
Super. Bah écoute, comme ça, on aura en plus les infos effectivement de quelqu'un qui était en direct là-bas. C'est parfait. Juste pour conclure sur le foot, on sortait du ciné il y a une semaine ou 10 jours, et on était à côté des Champs-Élysées à Paris, et on est sorti. Il y avait énormément de bruit, des gens qui des klaxons, tout ça. Et on s'est dit, alors soit la France a gagné un match, et puis en fait, on n'avait pas l'impression parce qu'on n'avait pas entendu qu'il y avait un match. Et on s'est dit, non, ça doit être l'Algérie. Et effectivement, c'était bien l'Algérie. Donc évidemment, une grosse population de deuxième génération d'immigrés algériens. Donc imaginons qu'il y ait France contre Algérie, France-Algérie en quart de finale. Ça va être où vont être les comment dire, le patriotisme, ça va être très compliqué.
Le cœur des supporters, oui.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que je préfère que l'Allemagne gagne le match en question d'aujourd'hui? Je sais pas. Mais
bah, écoute, on verra bien comment ça se passe. Ce qui a été extraordinaire dans cette coupe depuis le début, ça a été le suspense jusqu'au dernier moment. Et bien ouais. souvent, toutes les décisions se sont faites dans les 10, 15, 20 dernières minutes. Donc, on verra bien un peu comment le match se profile.
Bah écoute, tu vois, toi, tu vois ça comme ça. Moi, la manière dont je le dirais en tant que totalement pas fan de foot, c'est très, très chiant pendant 75 minutes et après, il se passe un truc, tu vois. Donc, vision légèrement différente. Je suis sûr que la plupart d'entre vous sont plutôt du côté de Jeff que du mien. Bon, allez, ça suffit de parler de foot, non? À moins que tu veuilles ajouter quelque chose, Jeff.
Non, non, le seul truc que je noterais, c'est que le foot a jamais été super populaire aux États-Unis et cette Coupe du Monde a été assez extraordinaire en termes de popularité, où on voit en fait le streaming sur ESPN, qui est la grosse chaîne du sport aux États-Unis, battre les résultats, enfin les chiffres du baseball, du football américain, etc. Donc il y a un vrai engouement derrière cette Coupe du Monde aux États-Unis. Donc on va voir un petit peu si le sport se développe ici.
C'est vrai que moi, tous mes amis sur Twitter et tout ça, et c'est marrant, là, on revient à la question tech parce qu'on parle un petit peu de la manière dont ça rapproche les gens. Et moi, je me rends compte que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Google+, il y a énormément de gens qui parlent de cette Coupe du Monde et qui suivent. Évidemment, les Américains sont dans la Coupe, donc peut-être que ça les motive plus, mais quand même, jusqu'à cette Coupe du Monde, le foot, c'était plutôt le sport pour les filles au lycée. Et aujourd'hui, ils sont vraiment complètement derrière leur équipe. Et je le constate énormément. Il y a, pour la première fois, plein d'Américains sur Twitter qui parlent de foot, de soccer, comme ils disent. Donc, bon, bref. Voilà pour la parenthèse foot. On se devait de la faire. On est quand même, la France est en quart de finale. On devait parler un tout petit peu de foot. Mais ça fait à peine 6 minutes qu'on a lancé l'émission. Donc, on est encore raisonnable dans notre dépassement des temps avant de lancer le vrai sujet de l'émission, qui va être... pour aujourd'hui, on va en avoir deux gros. Google I.O., bien sûr, où Google a annoncé énormément de choses pour Android. Et le Fire Phone d'Amazon, qui a été annoncé il y a une petite semaine à peu près. Donc le téléphone d'Amazon qu'on attendait depuis un moment, mais qui a peut-être de quoi nous surprendre malgré tout. Avec des fonctionnalités des fonctionnalités assez intéressantes. On va y revenir dans le deuxième sujet. Commençons donc avec Google I.O. et donc cette présentation extrêmement longue qui a sans doute fait très plaisir aux développeurs, un petit peu moins aux blogueurs hipsterifiés qui suivent les conférences de développeurs pour avoir des news. Mais enfin quand même, il y avait son lot de news pendant une heure et demie, c'est juste que l'heure qui a suivi a commencé à se faire un peu longue et était un petit peu technique. Présenté donc principalement par Sundar Pichai, qui est le vice-président senior pour Android, Chrome, Google Apps, tout ça. D'abord, peut-être la première question, un truc que j'aime bien... dont j'aime bien discuter quand on commence à parler de ces conférences, c'est l'ambiance et la réussite même de la présentation. Et puisque Thomas, tu étais sur place, peut-être que tu peux nous dire comment tu l'as senti. Est-ce que c'était bien huilé, bien rodé? Est-ce que c'était agréable quand tu étais dans la salle?
Bah encore une fois, alors je suis peut-être un petit peu biaisé, mais c'est vrai que pour redonner un peu de contexte, on était je pense qu'il y a eu beaucoup plus de monde que d'habitude à cette édition cette année, et ils ont très mal organisé l'arrivée des gens. Et sans vouloir rentrer dans les détails un peu d'organisation, il y avait moi j'ai l'impression qu'il y avait énormément de gens qui étaient encore dehors quand la session la keynote a commencé. Et d'ailleurs ça se voit un petit peu sur les images, parce que je sais pas si tu as vu les images de The Verge par exemple, mais tu vois la tête des gens qui défile et qui passe devant la caméra alors qu'il a commencé à présenter c'est les vrai. Choses. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'étais dans ce qu'ils appelaient la overflow room, donc l'endroit où en gros ils ont mis tous les gens qu'ils ont pas réussi à rentrer dans la salle principale, qui est déjà super grande. Et donc du coup on avait un petit peu cette déconnexion avec l'ambiance et le public, ce qui est un peu dommage parce que c'est ça qui contribue aussi à apprécier la keynote quoi. Mais on entendait quand même malgré tout que les gens applaudissaient donc il y avait quand même, enfin je pense que les gens étaient quand même un peu galvanisés par la présentation. Après il y a eu aussi deux éléments assez intéressants. Je sais pas si on en a parlé sur les blogs, mais en fait il y a deux personnes au cours de la keynote qui se sont levées pour faire un peu une sorte de tribune libre à Google et il faut savoir
pendant la présentation.
au plein milieu de la présentation, ouais. Et donc les gens ont pas interrompu les gens qui présentaient parce qu'ils avaient pas de micro, donc on les entendait pas forcément très très bien. Mais la première fois, je sais plus exactement qui est-ce qui présentait. La première personne qui présentait, c'est pas forcément laissée trop interrompre par ça. Mais la deuxième fois, c'était quelqu'un qui parlait de Google Cloud et on sentait que la personne qui était sur scène perdait un petit peu les moyens face à cette personne au milieu du public qui parlait, qui invectivait
Google. Qui les invectivait, ouais, ouais.
Donc c'était quoi la première personne, c'était à propos des évictions
c'est ça.
D'appartements, et puis la deuxième, c'était à propos des problèmes de privacy, non ? C'était quoi ?
Non, la deuxième, ouais, c'était Boston Dynamics. Vous savez, ouais, la société qui fabrique des robots, qui a des contrats avec les militaires. Et effectivement, il disait, c'était même un petit peu ridicule, ça a plutôt levé des rires que des vraies préoccupations. Ouais. Il disait mais réveillez-vous, Google est en train de construire des robots tueurs, ils sont en train de construire des robots tueurs, réveillez-vous. Et il faisait référence certainement à Boston Dynamics qui a des contrats avec les militaires, mais entre parenthèses, Google a annulé les contrats, donc ils sont en train de les terminer, ils en ont toujours, mais ils ont annulé pour la suite, donc c'est vraiment pas... Et à chaque fois, les personnes qui faisaient les présentations ont plutôt pas mal rebondi. Il y avait une personne qui avait fait une référence à la première personne qui s'est levée. Le présentateur a ensuite dit « Donc, vous pouvez utiliser cette application pour faire ci ou ça. » Ou si vous voulez faire une manifestation un petit peu longue, c'était pour la batterie d'Android. La deuxième a dit, voilà, donc à propos de Boston Dynamics et des robots militaires, donc c'est une application qui fait ci, ça, c'est l'application la plus paisible,
la plus
dans le sens de la paix, la plus pacifique, voilà, que j'arrive à faire, donc, ouais, mais bon.
Ouais, voilà,
c'est intéressant que.
Et c'est marrant parce que c'est assez inédit, en fait. Enfin, moi, j'ai jamais vu ce genre de choses, que ce soit chez Google ou ailleurs. Enfin, une conférence technologique qui est interrompue comme ça. On sent malgré tout, et Jeff, je pense, pourra confirmer, on sent malgré tout qu'il y a, enfin, de dire que c'est des tensions sociales, c'est un petit peu excessif, mais on sent malgré tout que les gens qui ont des griefs à l'égard de Google et des sociétés technologiques sont de plus en plus visibles et font de plus en plus de bruit, quoi. Mais je pensais pas que ça arriverait en plein milieu de la keynote.
C'est vrai que c'est jamais arrivé dans une keynote, que ce soit Salesforce, que ce soit Apple, parce que je pense qu'ils font beaucoup plus attention aux gens qui sont dans l'événement. Mais tu as raison, c'est vraiment la preuve d'une tension sociale réelle, et qu'à un moment ou un autre, si jamais on n'arrive pas à reverser la vapeur,
inverser la vapeur.
Inverser la vapeur, reverse. Inverser la vapeur. Merci. Ça va péter, quoi.
Ouais, il y a effectivement. Et il y avait aussi des manifestants devant la salle avant ça. Donc, effectivement, c'est surprenant que ça soit plus chez Google qu'ailleurs, mais en même temps, Google est peut-être plus omniprésent. Bref, passons aux produits, aux trucs de geek et aux trucs vraiment intéressants qui ont été annoncés. Il y a toute une série de choses qui a marqué cette conférence parce qu'ils ont annoncé énormément de produits différents. Moi, je dirais qu'il y a deux choses que j'ai retenues. D'une part, le fait que Android arrive partout, c'est-à-dire qu'on a une Android TV, on a Android dans la voiture, on a Google Fit qui marche avec Android Wear, donc Android sur le poignet, Android dans la maison, les Chromebooks qui vont pouvoir faire tourner, donc des ordinateurs qui vont pouvoir faire tourner des applications Android. Android est absolument partout, et ça c'est quelque chose de vraiment marquant dans cette conférence. L'autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'ils sont en train de refondre complètement le design d'Android, le côté vraiment look, avec ce qu'ils appellent le material design, qui est une sorte de... Allez, on va dire une sorte de flat design, mais avec un petit peu de profondeur. Ils appellent ça des pixels avec de la profondeur. Qui est vraiment un design qui peut plaire ou pas, mais je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un très bon design, très recherché, et c'est assez marquant pour moi parce qu'on disait il y a un an ou deux que Google était en train de s'améliorer, Google dont le point fort était le cloud, était en train de s'améliorer en design plus rapidement que Apple, dont le point fort était le design, était en train de s'améliorer en cloud. Donc, chacun avait ses forces, mais Google comblait le retard qu'ils avaient dans l'autre domaine plus rapidement qu'Apple ne comblait le sien. Et là, on en a la preuve, je pense, c'est-à-dire que Google a vraiment réussi à imposer, enfin, à montrer qu'ils avaient une vraie volonté de design très sérieuse et très convaincante. Et pour moi, c'était l'un des faits marquants. Donc, on va parler de tout le reste ensuite, mais Thomas, peut-être encore, toi qui étais sur place et puis surtout qui est dans l'écosystème Android tous les jours, est-ce que tu partages mon analyse ou pas ?
Ouais, complètement. Et pour rebondir, en fait, c'est sur ce que tu disais, là, l'espèce d'inversion de tendance comme ça, de voir un Google qui est très très fort sur le, enfin, ou en tout cas qui essaye d'être très fort sur le design, alors que bah c'est pas forcément son ADN, on va dire. C'est vraiment marquant à un point où même sur le plan des nouvelles API ou des nouvelles fonctionnalités de l'OS, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées dans les sessions Android, qui expliquaient que enfin, qui nous montrait en fait que les nouvelles API étaient vraiment dirigées vers l'implémentation de ce nouveau, de cette nouvelle interface, enfin de ce nouveau type d'interface graphique. Et donc, on sent qu'ils veulent vraiment même épauler les développeurs pour qu'on essaye de suivre un petit peu ce nouveau pattern, enfin les nouveaux, ce qu'ils appellent material design. En ce qui concerne la réception, donc toi tu disais que ça te plaisait beaucoup. Je suis assez, enfin, c'est, je trouve pas ça moche, je trouve ça plutôt joli. Mais c'est vrai que, enfin, je suis encore un peu, je sais pas, un peu dubitatif quant à l'adoption que ça va avoir, parce que c'est quand même un changement qui est assez important. Et je suis curieux de voir à quel point les développeurs vont embrasser entre guillemets les nouvelles guidelines, quoi. On en discutait un petit peu ce matin au boulot et on sait pas en fait comment est-ce qu'on doit prendre les choses nous chez Pocket. On sait pas si on doit bah, faire en sorte que Pocket ressemble à une application made in Google. Bon, a priori, c'est pas forcément ça qu'on va faire. Ou alors, si on doit continuer à un peu essayer de suivre notre petit bonhomme de chemin et avoir nos propres éléments graphiques auxquels on tient. Ou si ce sera entre les deux, et c'est probablement la solution qu'on choisira, sûrement une alternative entre ces deux solutions-là. Mais je suis curieux de voir combien de temps ça va prendre en fait avant de. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez l'époque où les applications Android ressemblaient beaucoup aux applications iOS, juste parce que bah dans beaucoup de boîtes il y avait un designer qui utilisait iOS et qui donnait des designs aux développeurs Android qui étaient énormément inspirés d'iOS. Donc on en est très loin aujourd'hui. Mais malgré tout, bah des fois il y a quand même un petit peu d'une application à une autre, il y a quand même des différences et les applications sont quand même assez hétérogènes. Et je me pose un peu la question moi de ce à quoi ressemblera Android dans 6 mois en fait, quand ce sera sorti, quand cette version sera sortie et que les gens vont commencer à développer pour ça.
Alors effectivement, c'est la version 5 d'Android qui était en preview, qui est Android L. Vous savez qu'ils ont une lettre par nouvelle version. Là, c'est L. On ne sait pas quel gâteau ils choisiront pour la lettre L. Peut-être Lollipop ou quelle sucrerie ils choisiront. Jeff, tu as eu le temps de regarder un petit peu le design de ce material design. Ça, toi qui es très... iOS Apple, ça t'a
très iOS Apple. Bah en fait, la plupart de nos boîtes qui sont devenues, qu'ont eu beaucoup de succès sur iOS à un moment ou à un autre, doit passer sur Android aussi. C'est toujours le parent pauvre. Et je pense que bah, si on a un design de référence un peu plus uniforme sur Android, ça permettra d'éviter que les applications aient l'air vraiment moches une fois que tu les vois sur la plateforme, quoi. Donc, je pense que c'est positif. Est-ce que les designers vont vraiment donner à Android toute l'attention qu'il mérite, étant donné les chiffres de pénétration, ça reste un peu la question, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce que tu as sur iOS, c'est les seuls chiffres qu'on garde.
C'est vrai, à ce point-là.
Yep.
Bah, d'accord. Bah, c'est intéressant, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, Jeff et... Juste, je vais préciser, Jeff est venture capitaliste, donc dans la Silicon Valley. D'ailleurs, félicitations pour ton nouveau fonds, hein. On l'a pas évoqué, mais les choses vont plutôt bien. C'est très enthousiasmant pour toi, donc félicitations.
Merci.
Tu suis vraiment effectivement l'écosystème des développeurs et tu essayes de ton boulot finalement, c'est de savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui se passe, ce qui est intéressant, ce qui est donc ce genre de choses. Donc effectivement, tu as tu vois l'autre côté des choses par rapport aux développeurs eux-mêmes.
D'un point de vue pragmatique. Tu regardes les chiffres sur iOS, étant donné que tu ne peux faire véritablement qu'une plateforme correctement attaqué par Android, sauf si tu es une infrastructure de sécurité ou de management spécifique à Android, on va toujours commencer par iOS, et à un moment ou à un autre, typiquement une fois que la boîte a levé son premier gros tour de financement, on commencera à regarder Android. Je sais pas quand est-ce que Pocket est passé sur Android, par exemple, mais clairement, c'était les chiffres iOS qui étaient les plus importants au tout début, quoi.
Bah justement, ouais, Thomas, toi, on parlait du design et des choix que vous alliez faire. Pocket est une app très très établie, donc peut-être qu'elle peut continuer dans sa direction même au niveau design. Je pense que les gens qui vont commencer aujourd'hui vont être très avantagés et très intéressés par ce nouveau design de Google. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu, tu voulais peut-être dire autre chose ?
Non, ouais, j'étais juste curieux par rapport à la réflexion de Jeff sur ce qu'il disait concernant le fait que les sociétés se focalisent avant tout sur les nombres iOS face au nombre Android, mais c'est vrai qu'il a apporté un complément d'explication.
Oui. Il y a donc, continuons sur les annonces. La nouvelle version d'Android, version 5, Android L, avec des meilleurs runtime pour les gens qui savent ce que ça veut dire, un modeur 3D amélioré. Il y a des choses intéressantes qui se font au niveau de l'unlocking, c'est-à-dire que ça vous débloque votre téléphone s'il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies, localisation, la montre Bluetooth par exemple, ce genre de choses. Au niveau du design dont on parlait, c'est aussi un design qui est optimisé, qui est conçu pour le web, donc les applications web pourront bénéficier de ce nouveau design aussi, donc c'est quelque chose d'important. Ils ont parlé des animations. Je trouve qu'ils en faisaient un petit peu trop sur les animations. Ça bougeait un petit peu tout le temps partout. Mais c'était quand même quelque chose qui était bien réfléchi aussi et qui était complètement intégré à ce design. Les boutons s'animaient, les fenêtres se déplaçaient, etc. Donc, tout ça, ça constituait la preview pour la version 5 de Android, donc Android L. Ils ont fait une petite pique envers Apple en quelque sorte en disant que les malwares ne touchaient que 0,5% des utilisateurs. C'était plutôt marrant et c'était bon enfant, surtout qu'ils ont utilisé des appareils iOS plus tard dans la présentation. Donc ensuite on a eu Android Wear qui a été un petit peu plus présent, un petit peu plus présenté, on va dire, et je pense qu'on confirme que c'est effectivement Google Now sur une montre avec tout un tas de petites fonctionnalités, mais en gros c'est vraiment Google Now sur la montre. Moi je suis pas convaincu que ça ait ça va être intéressant pour certaines personnes, mais je suis pas certain que ça convainque un très très large public. On verra si je me trompe ou pas. Interrompez-moi quand vous voulez dire quelque chose je dis, parce que là. Ah, vas-y Thomas, vas-y. Dis-moi que j'ai tort et que je n'ai rien compris.
Non, mais c'est marrant, c'est quelque chose que j'entends régulièrement, et en fait, c'est pas exactement Google Now. C'est vrai que eux, en fait, quand ils présentent les applications Google juste pour parler d'Android Wear, ils présentent les applications Google et comment ça se matérialise finalement sur Android Wear. Mais en fait, c'est n'importe quel pour les utilisateurs Android. N'importe quelle notification peut être affichée sur la montre. Et là, tu vois, tout à l'heure, je suivais le match en réunion et j'avais l'application RMC installée sur mon téléphone et je recevais les alertes de but directement sur ma montre, quoi. Donc, faut savoir qu'en fait, ils ont fait une API qui est tellement bien pensée qu'une application aujourd'hui Android n'a rien besoin d'ajouter en fait pour afficher les notifications sur la montre. Donc,
c'est vrai
ça va un peu au-delà de Google Now.
Oui, t'as pas tort. Disons que les notifications qui s'affichent sur la montre au lieu de s'afficher sur le téléphone, c'est quelque chose qu'on attend désormais avec une montre connectée. Donc, c'est peut-être je suis pas tout à fait exact, mais c'est pas quelque chose de surprenant. Mais c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes. Par exemple, les apps pour la montre s'installent directement sur la montre quand on a l'app correspondante sur le téléphone. C'est-à-dire que si on a une app sur le téléphone qui a une composante qui fonctionne avec la montre, eh ben, elle est installée directement sur la montre. On n'a pas besoin d'aller la chercher sur la montre ou d'avoir une application spécialisée sur le téléphone, etc. Il y a une synchronisation instantanée entre les informations qui sont affichées sur la montre et sur le téléphone. Par exemple, si on est en train de, ils ont donné l'exemple d'une recette de cuisine. Si on fait défiler les étapes de la recette, eh ben, elles sont synchronisées en temps réel entre la montre et le téléphone, etc., etc. Donc, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu réducteur. Il y a des choses intéressantes. Je reste quand même pas convaincu. À vrai dire, le gros problème reste le temps de vie de la batterie. Mais malgré ça, je reste quand même pas 100% convaincu que ça sera intéressant pour un très large public. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que ça sera, les gens seront séduits. Il y a Android Auto qui est donc pour la voiture avec principalement la navigation, la communication et la musique. Et là encore, Google Now qui vient fourrer le bout de son nez dans les interfaces spécialement prévues pour l'automobile d'Android. Donc c'est-à-dire que vous connectez votre téléphone et il va pouvoir afficher certaines applications sur l'écran de votre voiture. Rien de complètement inattendu hein, là, à moins que je me trompe et vous pouvez me contredire là encore. Non, on ne me contredit pas, très bien, ça veut donc dire que j'ai raison a priori, j'espère.
ouais, on a ajouté.
D'accord, Android TV, on sait que Google a essayé d'arriver sur le marché de la télé des box connectées qui sont beaucoup plus importantes aux États-Unis qu'en France, parce qu'en France, on a tous nos box par notre opérateur, et elles sont plutôt bien faites, enfin... plus ou moins. Généralement, aux États-Unis, c'est un petit peu moins le cas. Mais bon, Android TV semble être la réponse définitive de Google aux concurrents, comme bah, même Apple avec l'Apple TV, mais aussi Roku, etc., etc. Et encore une fois, l'interface est bien faite. C'est une bonne box qui est très compétente. Elle fait des jeux aussi. Elle a des manettes qui peuvent être utilisées avec la box. Mais rien de très surprenant là non plus. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on peut trouver chez Amazon, par exemple. Apple n'a pas encore des applications qu'on peut installer indépendamment sur la box, mais on s'imagine que ça risque d'arriver. Mais en tout cas, Google, avec Android TV, les a déjà. On a aussi appris que Bouygues et SFR allaient utiliser Android TV dans leur prochaine box, ce qui est plutôt intéressant. Bref, une copie scolaire, mais sans faute, pour Android TV. Là aussi. Non ? Si ?
Ouais,
non, mais c'est un peu... Tu sais, ça me rappelle la discussion sur la dernière version d'iOS qui était un catch-up général d'Apple sur tout un tas de trucs qui manquaient et qui devaient être ajoutés. Et c'est un peu, en fait, le feeling qu'on a par rapport à toutes ces annonces sur Android. Parce que bon, t'as une Android TV, ouais, great. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as une version de l'Apple TV qui marche pas mal, qui vient de chez Google, ça va marcher pas mal. Mais est-ce que c'est fantasmagorique? Non.
Bon, ouais. Disons qu'il y a la différence que les développeurs peuvent développer des applications et on a un App Store sur cet Android TV, ce qui donne quand même un petit peu plus de liberté pour l'utilisation. Thomas, pardon, vas-y.
Ouais, moi ce que j'ai eu du mal à voir, c'est finalement quelle est la différence avec l'ancienne Google TV qu'ils ont essayé de lancer il y a 2 ans quoi. On sent qu'on est 2 ans plus tard, donc les applications ont évolué, l'interface est plus jolie, l'ergonomie a été améliorée, mais finalement, enfin ce qui avait posé problème à Google TV, c'était le prix d'une part et puis le fait que les constructeurs soient pas forcément super enclins à suivre le mouvement. Et j'ai pas forcément l'impression qu'ils aient énormément bossé là-dessus, en fait. Enfin, je pense que ça peut être génial si ça décolle, mais bon, si on est 12 à avoir une Android TV à la maison, bah, les développeurs vont pas forcément se précipiter à développer dessus, quoi.
C'est pas faux. Disons que, à mon avis, le prix, ils peuvent travailler dessus parce que, effectivement, on est, comme tu dis, un petit peu plus tard, et les prix ont baissé. Et ensuite, les constructeurs, pendant longtemps, ils ont essayé de trouver leur propre solution pour ce type de problème, c'est-à-dire pour avoir une télé intelligente. Et je pense que, comme dans d'autres domaines, la voiture, par exemple, on n'a pas trouvé un standard qui a émergé ou une réponse vraiment satisfaisante. Et surtout, souvent, les constructeurs de télé, ils savent construire les télés, ils savent pas forcément faire de bonnes interfaces. Donc, je pense que là, on a plus d'appétence pour ce type de système plus universel qui va avoir des applications, etc. Donc, bon, on verra, peut-être que je me trompe. Mais je pense qu'il y aura, en tout cas, un petit peu plus de succès à ce niveau-là.
Ouais, peut-être, ouais.
Google Fit, donc une sorte de plateforme ouverte pour la communication des applications de fitness, qui est là encore quelque chose qu'on attendait un petit peu, qui est pas fantasmagorique, mais qui est bien d'avoir, etc., etc. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Deux choses à dire en conclusion. On a dit plusieurs fois, et Jeff l'a répété aussi, même Thomas a fait preuve, je dirais, d'un tout petit peu de manque d'enthousiasme exubérant. C'est vrai que chacune des choses qu'ils ont présentées n'était pas forcément invraisemblable, mais par contre, il y en a eu tellement dans tellement de domaines différents que dans son ensemble, ça crée une image assez cohérente de ce que veut faire Google avec Android, et surtout que, comme on disait au début du segment, ils sont partout. Donc, c'est une force vraiment importante pour Android, qui a déjà une part de marché énorme par rapport au système concurrent. Et là, ils vont être présents dans tous les domaines également, dans tous les formats. Donc, c'est quelque chose de qui a vraiment son importance, surtout quand on parle aux développeurs, qui étaient les personnes principalement visées par cette conférence. Ils vont savoir que s'ils développent pour Android, avec assez peu de modifications, ils pourront adapter leur application à toutes sortes de formats et d'univers et de supports différents. D'ailleurs, même les ordinateurs, les Google Chromebook pourront faire tourner des applications Android. Donc, même sur un ordinateur, on pourra avoir des applications Android. Donc voilà, c'est je pense qu'on peut retenir. L'autre chose, c'était que il n'y avait pas de Google Glass et pas de Google Plus présenté à cette conférence. Les mauvaises langues ont dit que c'était un signe que Google les délaissait un petit peu. Moi, je pense que c'était surtout un signe que la conférence faisait déjà 2h30 et qu'on ne peut pas parler de tout à chaque fois. Mais bon, je ne sais pas si là encore vous me suivez ou si je me trompe, mais moi, ça ne m'a pas inquiété, quoi. Et Google Glass et Google Plus, ils sont toujours derrière.
Mais ça prouve quand même qu'ils ont peut-être un peu moins l'intention de mettre d'efforts et de ressources sur Google+, non, tu crois pas? Enfin, je pense qu'il y a quand même si c'est pas un abandon et que ça va pas disparaître demain, ça prouve que peut-être qu'ils ont reconsidéré le fait que le futur était dans le social et qu'il fallait absolument qu'ils concurrencent Facebook avec Google+.
La voix de la sagesse, Thomas, nous dit qu'on est peut-être entre les deux. C'est pas faux. Je pense que ça signifie certainement pas un abandon ni de l'un ni de l'autre. Par contre, effectivement, je pense que, de fait, mécaniquement, c'était pas leur gros fer de lance. Donc, oui, c'est peut-être pas tout à fait la chose sur laquelle ils comptent le plus. Pardon. Dernière petite chose à évoquer, c'est Google Cardboard. Est-ce que tu as eu ton Google Cardboard, Thomas?
Ouais, j'ai eu mon Google Cardboard. Tout le monde se demandait un peu ce que c'était ce truc-là au début quand ils nous l'ont donné. Mais en fait, je l'ai au boulot et tu peux pas savoir le nombre de personnes qu'on jouait avec depuis que je l'ai, le nombre de personnes qu'on fait, c'est génial ce truc, il faut absolument que j'en trouve un.
Essaye d'expliquer justement aux auditeurs qui savent peut-être pas ce que c'est que ce carton Google.
Ok, alors en gros c'est une sorte d'Oculus Rift, c'est l'Oculus Rift du pauvre en fait, c'est un Oculus Rift qui est fait à base de
carton.
Donc
un casque de réalité virtuelle.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc l'idée c'est de remplacer l'écran de l'Oculus Rift par le téléphone portable. Donc on glisse le téléphone Android dans cette espèce de masque en fait, fait en carton avec deux petites lentilles en verre. Et à partir de là, on est plongé dans une réalité virtuelle. Vraiment, c'est vraiment l'Oculus Rift du pauvre dans le sens où on voit les pixels. Ça répond bien, mais on sent que là, c'est vraiment du basse définition. Mais c'est vraiment marrant parce qu'ils ont développé tout un tas d'exemples d'applications autour de ça. Et ils ont sorti aussi un SDK pour les développeurs. Donc moi je serais pas complètement surpris de voir un peu plus d'applications tirer avantage de ce truc-là. C'est basé en fait, ils sont pas complètement tout inventé.
Ouais, excuse-moi, je précise quand même une chose, c'est que le carton en question, il arrive plié. C'est-à-dire que c'est juste une sorte d'enveloppe en carton, et donc vous le dépliez, vous l'ouvrez, et ensuite vous devez le plier comme une sorte, de Lego ou d'origami, et ça se transforme donc effectivement en casque de réalité virtuelle en carton. C'est ça qui est magnifique, c'est juste une enveloppe en carton, une sorte d'origami pour avoir un casque de réalité virtuelle, quoi.
C'est
vraiment c'est trop fort. C'est génial d'un point de vue marketing parce que tout le monde en parlait et c'est vrai que c'est super rigolo quoi.
Et en plus accessoirement c'est vraiment certaines personnes disaient ça, évidemment ça n'a pas la qualité d'un Oculus Rift qui va coûter $300 mais ça arrive bien à 80% de ses qualités, donc c'est pas quelque chose de ridicule, c'est pas quelque chose de complètement anecdotique, c'est vraiment un résultat intéressant. C'est pas juste un jouet qu'on jette au bout de 2 minutes. Tu confirmes, hein, Thomas, tu disais que tout le monde a joué avec.
Exactement. Enfin, je sais pas exactement quelle va être la durée de vie du truc. Je pense que ce matin, il n'y a pas beaucoup de personnes qu'on jouait avec,
C'est pas faux, c'est pas faux.
En fin de semaine dernière, il y avait des gens qui faisaient la queue à mon bureau pour l'emprunter. Mais je pense que ça ouvre aussi des opportunités intéressantes dans le sens où, on peut imaginer des gens qui réfléchissent à des exemples de réalité augmentée et qui avaient pas de, enfin, c'est compliqué de prototyper un casque de réalité augmentée. Alors que là, finalement, on a besoin de ce truc-là, du téléphone, le SDK est disponible quelque part sur un site de Google. Et puis, si on a un minimum de connaissances en développement 3D, eh ben, on peut commencer à développer ses propres applications de réalité virtuelle. Je sais pas, peut-être que ça va rien donner, mais peut-être
Oui.
on va en voir sortir des choses intéressantes.
Bon, en même temps, pour être clair, c'est pas non plus que Google en a fait des caisses et qu'il pensait en faire le nouveau fer de lance justement
Ouais, c'est vrai.
de leur société. C'était juste un petit truc marrant qu'ils ont livré à la fin. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la fameuse Google I/O. Jeff, point foot, il y a toujours pas de goal?
Non, toujours 0-0.
D'accord, ok. Bon, bah tout va bien, on n'a rien raté jusqu'à maintenant. On va continuer avec le Amazon Fire Phone, qui est donc le téléphone d'Amazon, dont on avait entendu parler depuis quelques semaines déjà, voire quelques mois, et qui a enfin été annoncé par Jeff Bezos, là encore dans une conférence, comment dire, un tout petit peu, on dit en anglais awkward, c'était un peu mal à l'aise, quoi. Ça allait, c'était correctement tenu, mais c'était pas non plus hyper à l'aise. Il y a eu des moments un petit peu embarrassants. Bon, voilà. Mais bon, moi, vous savez que je regarde toujours toutes les conférences de ce type-là. C'est ma coupe du monde à moi, ces choses-là. Bon, là, c'était pas complètement convaincant. C'était un match moyen, on va dire. Mais il n'empêche que le produit était assez intéressant. Alors, deux choses qui sont Allez, trois choses qui sont vraiment intéressantes. Bon, d'une part, le téléphone, c'est un téléphone moyen haut de gamme, à un prix de téléphone haut de gamme, donc il est un petit peu cher. Il est disponible qu'aux États-Unis pour le moment, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il a deux ou trois fonctionnalités différentes. Première, ce qu'ils appellent la dynamic perspective. La perspective dynamique, on avait parlé d'une question d'écran 3D. En fait, l'écran est un écran normal, mais la perspective change quand on bouge la tête. C'est-à-dire qu'on a l'impression de pouvoir regarder à l'intérieur de l'écran. Imaginez qu'il y ait un arbre avec un autre arbre derrière. Quand vous tenez l'écran devant vous, eh ben, vous voyez pas l'arbre qu'il y a derrière, mais si vous déplacez la tête en tenant l'écran immobile, et ben vous allez pouvoir voir l'image à l'écran change parce que il y a des caméras sur toute la machine qui regardent où sont vos yeux et où est votre tête. Et donc comme elle voit que vous vous déplacez un petit peu, l'image à l'écran va changer et vous allez pouvoir, elle va vous afficher l'arbre qui est derrière, comme si vous effectivement vous bougiez la tête dans un environnement où il y a cette profondeur. Donc c'est une technologie vraiment convaincante qui moi m'avait bluffé au moment où j'avais vu les premiers tests il y a des années de ça avec des gens qui avaient fait des sortes de hacks avec les manettes de la Wii à l'époque, hein, donc il y a très longtemps, et je me disais mais c'est pas possible que personne n'utilise cette technologie, c'est tellement bluffant. Et effectivement, donc sur le téléphone c'est tout à fait convaincant, enfin convaincant techniquement. Parce que ensuite, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que ça va servir à quelque chose concrètement? Je suis pas convaincu d'avoir vu des exemples dans cette conférence d'une utilisation cohérente de cette technologie. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment être utile d'avoir un truc comme ça ou ça va rester à l'état de gadget? Qui veut? Thomas.
Ok, j'allais laisser la parole à Jeff. Ouais, je pense exactement. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. C'est pourquoi faire, quoi. Ok, c'est génial, c'est vraiment joli et c'est vrai que c'est incroyable de réussir à mettre autant de technologies dans un téléphone parce que ça a vraiment l'air de très bien marcher. Mais je vois pas. Enfin, aujourd'hui, les applications qui sont développées aujourd'hui, enfin, tirent pas forcément avantage de ça, quoi. Et c'est vrai que je pense que si on veut vraiment aller dans le sens de fournir une expérience extraordinaire en utilisant ce head tracking, va falloir repenser nos applications. Va falloir. Ils ont montré des exemples de Amazon Maps qui te laissait. Enfin, tu bouges le téléphone dans un sens, ça t'affiche certaines choses. Tu bouges dans l'autre, ça t'en affiche d'autres. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre 6 caméras sur la front face d'un téléphone pour te fournir ce genre d'expérience? Je suis pas complètement certain, quoi.
Jeff, un petit peu plus convaincu par ce qu'ils avaient
Non,
fait.
Je pense que comme toute avancée technologique, il faut voir quelle est l'application qui va la mettre en valeur. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'Amazon n'ait pas annoncé un ou deux développeurs. Si Apple avait fait la même chose, tu aurais eu 2 ou 3 développeurs qui ont tiré parti de la technologie sur la scène avec Bezos, et tu verrais un petit peu à quoi sert la technologie. Alors que là, c'est super sympa, mais qu'est-ce que tu fais avec, quoi?
Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas, énormément d'applications concrètes et convaincantes. Bon, c'était un petit peu ma préoccupation, visiblement, vous la partagez. L'autre chose qui a été annoncée, c'était la fonction Firefly. C'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises. Firefly, c'est ce qui a donné à ce téléphone le surnom de la machine à acheter d'Amazon. Qui est-ce qui avait donné ce nom? C'était PC World, je crois. Copié d'ailleurs par, que je ne dise pas de bêtises, The Verge, voilà, qui est mon site anglophone de référence, qu'il avait appelé The Ultimate Buying Machine. Alors en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est une application, en fait, qui pourrait d'ailleurs, entre parenthèses, exister sur n'importe quel appareil, une application qui utilise le micro et l'appareil photo pour reconnaître n'importe quel objet, ou bon, presque n'importe quel objet, ou chanson, ou série télé, ou film, et vous donner des informations dessus. Bien sûr, une des informations essentielles qu'elle pourra vous donner, c'est combien ça coûte sur Amazon et est-ce que vous voulez vous le faire livrer le lendemain à la maison ou dans 2 jours à la maison. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est assez bluffant en tout cas, il faudra voir comment ça marche dans la pratique, mais la démonstration qu'il a fait dans la conférence était plutôt convaincante, c'est-à-dire qu'il regardait un CD ou un livre avec la caméra, et au bout de 2 secondes, ça reconnaissait l'objet et ça vous donnait la fiche de l'article correspondante. Pareil pour les chansons, on connaissait ça avec Shazam. Pareil pour toutes les séries ou les films qu'ils ont dans leur base de données. Et là où ça devient vraiment intéressant pour ces médias-là, c'est que pour les séries, par exemple, ou les films, ils peuvent reconnaître non seulement le film dont ça vient, mais la scène où vous en êtes, la scène qui est en train, qu'il a reconnue. Donc, il va pouvoir vous dire quels acteurs étaient dans cette scène, des détails sur ce qui s'est passé, peut-être des anecdotes du réalisateur, etc., etc. Donc, c'est vraiment la machine à chercher ultime qui est encore une fois intégrée à cet appareil, le Firephone. Et la première chose à laquelle on pense, c'est les gens qui font du showrooming, c'est un anglicisme et un barbarisme même, qui expriment l'idée qu'on va aller, par exemple, à la Fnac ou chez Darty ou ce que c'est, regarder, donc faire comme un showroom, utiliser ces boutiques comme un showroom, et ensuite faire utiliser la fonction Firefly de notre appareil pour l'acheter ailleurs. Bon, en même temps, on peut dire que c'était déjà possible, il suffisait de chercher l'objet en question sur Amazon ou sur une autre boutique, hein, et de l'acheter. Là, ça facilite encore plus les choses. On peut imaginer, par exemple, un autre exemple qu'ils avaient donné, c'était le fait de regarder des tableaux dans un musée. Ils vont être reconnus et donc ça peut nous faire une sorte de guide sur le musée, etc., etc. En comprenant bien le fait que cette fonction est en fait une application qui pourrait être présente sur n'importe quel appareil, en mettant cette question de côté, est-ce que elle vous a convaincu cette fonction? Ou alors peut-être 2 étapes, est-ce que ça vous a suffisamment convaincu pour acheter un Firephone? Ou est-ce que ça vous a suffisamment convaincu pour utiliser une application qui ferait ça si elle arrivait un jour sur votre téléphone favori? Ou alors est-ce que vous vous en foutez? Jeff, allez, commençons par Jeff ce coup-ci.
Alors, est-ce que c'est suffisant pour me convaincre d'utiliser un... Bon, je dois dire qu'à un moment ou à un autre, je vais y craquer, je vais m'acheter un téléphone Android. Mon partenaire Charles, qui est monsieur mobile chez nous, m'a recommandé le Nexus 5. Donc, on verra s'il recommande le Fire Phone. Je pense que l'application, j'utiliserai effectivement quasiment tous les jours, parce que c'est déjà ce que je fais avec l'application Amazon, qui a la possibilité de scanner un code barre de manière à ce que tu puisses faire une commande en un clic. Et ça, je le fais peut-être une ou deux fois par semaine. Donc, quelque chose qui permet de faciliter la commande comme ça, puisque bon, je suis Amazon Prime depuis très longtemps, je pense que c'est quelque chose qui va effectivement être très, très utile et je l'utiliserai.
D'accord. Mais par contre, peut-être pas pour un Fire Phone.
Non,
bon, ça dépendra de ce que dira ton partenaire.
Et puis, en gros, t'as tellement de nouveaux téléphones qui arrivent sur la plateforme Android que tu te dis toujours, ah bah, je vais attendre le prochain. Peut-être que oui. Je vais pas prendre le Nexus 5, je vais prendre le Nexus 6. Et donc, c'est pour ça que j'ai encore jamais acheté de téléphone Android, si ce n'est ce qu'on m'avait donné pour essayer, quoi.
Oui, entre parenthèses, on dit Android. C'est vrai que les appareils Amazon utilisent l'OS Android, enfin une version ce qu'on appelle forquée d'Android, donc modifiée d'Android. C'est pas tout à fait Android non plus, hein, ça ressemble pas dans l'interface à Android. Mais Thomas, toi qui es donc pour le coup vraiment androidophile, on va dire. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est une fonction que tu voudrais avoir sur ton appareil? Ou est-ce que tu serais prêt carrément
Android à acheter? j'adore l'adjectif androidophile. Oui, en tenant compte du fait que ça pourrait être, en ne tenant pas compte du fait que ça pourrait être une application qui tourne sur n'importe quel téléphone un peu puissant et un peu moderne. Si je trouve ça assez génial, c'est assez convaincant. Maintenant, bon, c'est pas nouveau. Il y avait Google, ce qui faisait ça il y a quelques temps. Et puis, on sait qu'il y a quand même des applications qui sont capables de faire ça depuis un petit moment, on va dire. Donc, c'est pas une grosse surprise que de voir ça. Et moi, je me pose toujours aussi un peu la question de me dire.
Je t'interromps juste une seconde pour dire, c'est vrai qu'il y avait des applications qui faisaient ce genre de choses, mais à ma connaissance, il y en a pas qui fait tout ça. Et c'est cette facilité d'utilisation, c'est-à-dire à la fois les objets dans les objets physiques et la musique et les séries télé et les codes-barres et enfin, tu vois, à un moment quand t'as tout réuni dans une application, je pense que c'est tellement intégré que ça change aussi l'utilité. Mais je te laisse continuer. C'était une petite parenthèse.
Ouais, non, c'est vrai que ça a le mérite d'être centralisé, mais finalement, des fois, quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, mais finalement, est-ce que ça va pas plus vite de taper, tu vois, de sortir le clavier et de taper directement le nom de ce que tu veux, taper le numéro d'un code barre, c'est peut-être pas ce qui se fait de plus rapide, mais la plupart du temps, moi aussi, j'utilise pas mal l'application mobile d'Amazon, et la plupart du temps, c'est quand même assez rapide de trouver directement ce que tu cherches, quoi. Donc, je me dis par moment que c'est énormément d'efforts pour quelque chose qui pourrait être fait autrement, de façon un petit peu plus longue et un petit peu plus compliquée. Mais finalement, c'est pas non plus la fin du monde que d'aller taper dans un champ de recherche ce que tu as envie d'acheter, quoi. Et pour en revenir sur le téléphone lui-même,
je dirais juste par rapport à ce que tu viens de dire là, je dirais simplement que je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve ça intéressant que quelqu'un qui apprécie le fait de ne pas avoir à regarder son téléphone quand il a la notification à la montre du poignet, tu vois, pour éviter de sortir le téléphone de ta poche. Ensuite, tu nous dises c'est pas forcément la peine d'avoir un truc qui va te reconnaître le truc directement. Mais bon, c'est un petit troll qui commence. Mais donc vas-y, tu voulais revenir au téléphone?
Là j'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre en fait la démarche d'Amazon. Je sais qu'ils ont envie d'avoir de plus en plus de gens dans leur environnement, c'est pour ça qu'ils sortent. C'est pour ça qu'Amazon Prime finalement c'est la livraison sous 2 jours gratuite, mais c'est aussi les séries en streaming et les films en streaming, etc. etc. Ils veulent vraiment essayer de faire en sorte que tout ce que tu fais sur Internet ou à chaque fois que tu as envie même d'acheter quelque chose ou de voir quelque chose ou d'écouter quelque chose, tu passes par Amazon. Donc dans cette optique-là, finalement, prendre le contrôle de ton téléphone, c'est pas surprenant, mais c'est un téléphone qui est super cher. Chez AT&T, apparemment, c'est $199. C'est quand même très, très cher.
Avec un engagement de 2 ans, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Et finalement, j'arrive pas tellement à comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sont obligés de faire un téléphone aussi avancé et aussi puissant, et est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire quelque chose de plus simple et de moins cher, voire même de gratuit, quoi. Et puis bon, moi je l'achèterai pas parce que c'est pas Firefox OS, Firefox OS, FireOS. Pour moi, c'est pas vraiment d'Android. Enfin, ils ont réinventé. On parlait de UI pattern et du UX pattern avant. Ils ont réinventé Android à leur sauce. Ils ont changé énormément de choses dans l'OS. Et quand tu l'utilises, moi je trouve pas ça très très ergonomique, quoi. C'est pas, enfin ça me parle pas des masses.
D'accord. Bah, peut-être effectivement que la conclusion de cette histoire, c'est que c'est un téléphone qui est prévu uniquement ou presque exclusivement pour les utilisateurs d'Amazon, pour les utilisateurs chevronnés d'Amazon, qui ne sont peut-être pas très spécifiques sur le téléphone qu'ils veulent avoir. Bon, c'est peut-être pas une population énorme, mais en même temps, ils ont restreint un petit peu la disponibilité en étant que chez AT&T, comme tu le disais. Donc, c'est peut-être un essai. Et on pouvait se poser la même question avec la tablette, dont je ne me souviens même plus du nom, le Fire, Kindle
Kindle Fire.
Fire, voilà, le Kindle Fire. Et en fait, ils se rendent compte que d'une part, bah, elle se vend pas mal, et d'autre part, que les gens qui ont un Kindle Fire achètent énormément sur Amazon. Donc, ils se
Ouais.
disent, il fallait qu'on ait aussi un téléphone. On a essayé de faire le meilleur téléphone qu'on pouvait, complètement orienté sur Amazon. Maintenant, si on n'en vend pas des milliards, bah, ok, c'est pas la fin du monde, mais au moins on a cette pièce manquante de notre écosystème qui est disponible pour les gens qui veulent. On donne aux gens qui veulent la possibilité de d'être complètement englobés dans notre écosystème, la possibilité de le faire. Puisque bien sûr, on l'a pas évoqué, mais pour les gens qui sont sur Amazon Prime ou Amazon Premium en français, ils ont droit à la musique gratuite, pas tous les titres du monde, mais il n'empêche, de la vidéo gratuite, etc., etc., en streaming. Donc, et des livres, possibilité de louer des livres dans la boutique Kindle, etc., etc. Donc, Amazon Prime, c'est un vrai écosystème complet qui peut convenir quand on se rend compte à quel point ça devient bon marché si on prend en compte tous les éléments et tous les trucs qu'il offre. Donc, bon. Peut-être,
Ouais,
effectivement, là. Oui, Thomas?
j'allais ajouter, ouais, de facto, en fait, on est sur premium. Enfin, le fait d'acheter le téléphone, si on n'a pas de compte Amazon Premium, de facto, on a un an de premium offert quand on achète le téléphone.
C'est ça.
Mais quand on achète le téléphone d'Amazon. Mais la question que je me pose, en fait, en tant que client final, ou la question qu'un client se posera, à mon avis, c'est: pourquoi est-ce que tu achèterais le téléphone d'Amazon plutôt qu'un iPhone, quoi? Parce que finalement, en termes de prix, c'est la même chose. J'ai quand même du mal à croire qu'il y ait énormément de gens qui vont se dire: ah, je vais acheter ce téléphone-là parce qu'il est mieux et il est différent de l'iPhone, plutôt que de prendre un iPhone que tout le monde a.
Je suis complètement d'accord. C'était un peu la question que, enfin, la remarque que je voulais faire, c'est que ce qui m'étonne, c'est qu'il s'est pas fait un modèle de discount où, en gros, tu peux récupérer le téléphone gratuitement à partir du moment où tu t'engages à avoir, je sais pas quel volume d'affaires, ou de commandes que tu fais sur Amazon, parce que c'est un peu ce qui aurait du sens. Là, en gros, si tu as un iPhone avec l'appli Amazon, tu fais quasiment 50% de ce dont tu as besoin avec, enfin, tu répliques ce que tu as avec le téléphone Amazon sans en avoir la dépendance. Donc ça c'est vraiment bizarre.
Ben, il y a peut-être un élément de réponse là-dessus, c'est qu'il y a la fonctionnalité Mayday qui existe sur les Kindle Fire aussi, sur les tablettes, qui vous permet d'avoir accès à un service client gratuit directement sur le téléphone. C'est-à-dire que vous allez avoir la tête d'une personne qui va s'afficher et qui va pouvoir configurer votre téléphone ou qui va pouvoir vraiment faire ce dont vous avez besoin. Et si vous êtes quelqu'un qui veut pas s'emmerder ou même qui sait pas surtout comment configurer les téléphones ou comment faire certaines choses, ça peut être très pratique, mais évidemment, ils ont besoin de gens derrière qui font tout ça. Donc peut-être qu'ils veulent limiter l'accessibilité au départ pendant peut-être 6 mois, 1 an, et que à terme, il y aura soit un nouveau modèle, soit une baisse de prix qui permettra à plus de personnes d'accéder à ce téléphone. Mais il faut d'abord tester les choses parce que c'est une énorme infrastructure d'avoir un service client disponible. Ils sont disponibles, attention, en 10 secondes, en moins de 10 secondes sur leur Kindle Fire, sur la tablette. Donc si votre grand-mère ou votre oncle ou votre père ne sait pas trop s'emmerder avec, ne sait pas comment configurer ces trucs avec son téléphone, vous imaginez, vous lui passez un Fire Phone et vous lui dites: bon, si t'as un problème avec le téléphone, t'appuies sur ce bouton et il y a quelqu'un de chez Amazon qui va te dire comment corriger ton problème. C'est pratique quand même. Et je pense que ça peut expliquer un petit peu la limitation de l'accès. Non? pas convaincu.
Moi, j'étais, en fait, pour tout dire, moi, j'avais même, j'étais tellement convaincu qu'ils allaient sortir un téléphone gratuit qu'il y a à peu près 6 mois de ça, j'avais parlé à un repas, à un copain, qu'ils allaient, que le téléphone allait être gratuit, et du coup, j'ai perdu mon pari, donc c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu
aigri. Non, mais ça, tu avais complètement raison, et j'aurais pris exactement le même pari que toi, et donc, j'aurais partagé le repas avec toi. Parce que ça a du sens et pricer
c'est ce que tout le monde attend,
Amazon, pricer un téléphone Amazon à 199 $, c'est n'importe quoi, quoi.
Bah, peut-être qu'il sera, moi, ma prédiction, c'est qu'il sera disponible gratuit dans un an quand leur infrastructure
possible,
sera rodée. Donc, si jamais il n'est pas gratuit, je vous paye un repas à tous les deux. Hop, voilà. C'est mon pari. Bon, on va donc tourner la page de nos grosses histoires, de nos grosses infos à retenir de ces 15 derniers jours. Et avant de nous diriger vers les news et rumeurs, je vais rapidement remercier encore une dizaine de Patreons qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech. Vous connaissez désormais la chanson hein, sur patreon.com/rdvtech. Il y a notamment Frédéric Lecoq, Frédéric Pernaud, Daniel Phillips, Elise FR, que je connais bien, qui m'avait prêté l'iPad, premier du nom, à l'époque où il n'était pas encore disponible en France, pour que je fasse un test, il y a encore mes vidéos sur YouTube. Cédric, qui est un autre Cédric que je connais bien, un gros bonnet du podcast. Fabien Frossard, Pierre Schweitzer, Freyjamir, Carrie854 et Clément Tirsikel, que je remercie très chaleureusement. Donc merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de nous soutenir sur le Patreon. On aura quelques mots sur Patreon un petit peu plus tard. Merci à toi aussi Thomas de nous soutenir, c'est vraiment très 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 apprécié. Et un petit mot à tous ceux qui participent au Patreon. Si vous n'avez pas reçu vos emails pour vous dire si vous êtes à un niveau de Patreon qui vous donne droit à une récompense, si vous n'avez pas reçu le mail, prévenez-moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à rdvtech@frenchspin.com. Normalement, j'ai envoyé les mails à tout le monde et je le fais, disons, dans la première semaine du mois, chaque mois. Si vous n'avez pas reçu les mails, prévenez-moi parce que peut-être qu'il y a eu un problème dans l'envoi, donc n'hésitez pas à me prévenir. On corrigera ça, on verra ça ensemble. Et pour info, toujours sur le Patreon, je suis aux États-Unis donc à partir de mercredi et j'en reviendrai avec mon fameux nouveau micro, le Hale PR40, sur lequel je salive d'avance. Et je suis en train de regarder en plus les nouveaux processeurs. Je posais plein de questions sur Twitter pour la mise à jour de mon PC. Alors, est-ce que je dois prendre un Core i5 ou un Core i7, etc., etc. Si vous voulez me voir saliver là encore et devenir complètement geek sur toutes ces questions, vous pouvez me suivre sur Twitter, @notepatrick. Les news et les rumeurs. D'abord, un petit mot pour vous signaler qu'il y a un film qui est malheureusement en anglais, je ne crois pas qu'il y ait de sous-titres, qui s'appelle « The Internet's Own Boy », « Le garçon d'Internet », le garçon, oui, le garçon de l'Internet, qui est le film sur Aaron Schwartz, dont on vous a parlé plusieurs fois, qui était un hacker et un militant, qui a eu des mésaventures assez graves avec la loi aux États-Unis pour des choses qui n'étaient pas justifiées et qui a malheureusement fini par se suicider face à la pression et on peut dire même aux menaces qu'il subissait par le département d'État. Il y a un documentaire qui a été fait sur lui, que j'ai malheureusement pas encore eu le temps de voir, il est sorti il y a 2 jours, mais je me plaignais sur Twitter qu'il n'était pas possible de l'acheter sur Internet, parce que tous les sites où je voulais l'acheter étaient me disaient que je pouvais pas l'acheter en France, et on m'a répondu qu'effectivement il était disponible sur archive.org, qui est une source libre, disponible à tout le monde et légale, donc ils l'ont aussi mis sur archive.org, donc moi je suis allé le télécharger là-bas, et en plus j'ai fait une petite donation à l'EFF, qui est une organisation qui s'occupe de la liberté, des libertés sur Internet, donc j'ai pas l'habitude de parler de ce genre de choses souvent, mais c'est vraiment un personnage important d'Internet et je pense que c'est intéressant, ça sera intéressant de voir ce documentaire aujourd'hui encore plus qu'hier et peut-être moins que demain. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant a priori. Donc, comme c'est disponible également gratuitement, je vous encouragerai à aller le télécharger. Je mettrai les liens, le lien dans les notes de l'émission. Aaron Swartz, figure emblématique de l'internet de ces dernières années. Alors, on va parler d'applications un petit peu débiles. On a parlé de choses très sérieuses et très intéressantes avec Google, Android et tout ça, et puis Amazon et le Fire Phone. Maintenant, parlons d'applications idiotes, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez succombé à la folie de l'application Yo, qui a, comme un ouragan, pris de cours et de vitesse toute la Silicon Valley et même le monde ces deux dernières semaines? Est-ce que vous avez installé Yo, vous?
Non.
Non, d'accord. Oui. Jeff a dit non. Thomas, oui. Eh bien, moi aussi, parce que Corben m'a harcelé jusqu'à ce que je le fasse. Donc, j'ai fini par le faire. Alors, Yo, qu'est-ce que c'est que cette application, si vous n'en avez pas entendu parler? C'est une application qui vous permet, en appuyant sur un nom, d'envoyer un message à votre ami. Mais le seul message que vous puissiez envoyer, c'est Yo. Donc ça lui fait une petite mise à jour, une petite notification qui dit yo avec le son qui fait yo. Et c'est tout. Donc c'est un bouton pour envoyer yo. Alors à quoi ça sert? À rien, mais ils ont... Alors moi j'ai peut-être une explication. Je pense que c'est un petit peu comme, pour ceux qui se souviennent de Facebook du Facebook d'il y a quelques temps, vous vous souvenez du poke? C'était simplement, ça vous permettait de faire d'envoyer à quelqu'un une de vos relations sur Facebook le fait que comment on traduit poker en to poke en français?
Personne. Poke. Poké.
Ouais, poke. Bon, tout le monde connaît poke sur Facebook.
Tu toques sur quelqu'un.
Voilà, exactement. et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que en fonction de la relation, du moment, etc., le contexte informe l'information que vous voulez donner à la personne. Donc, c'est un petit peu ce qu'ils disent, genre, si vous devez aller chez quelqu'un et que vous avez besoin d'avoir son attention pour qu'il vous ouvre la porte ou je sais pas quoi, vous lui envoyez yo, c'est plus rapide que de taper le message, salut, je suis en boîte chez toi, tu viens m'ouvrir la porte, quoi. Bon. Non? Ça vous convainc toujours pas?
C'est un bon résumé, mais c'est vrai que bon, je pense que ça a fait beaucoup, 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 beaucoup couler d'encre, beaucoup trop couler d'encre. et je pense que TechCrunch en a beaucoup trop parlé et que c'est quelque chose de marrant. C'est marrant de voir que ça décolle autant. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la peine d'en faire autant de publicité. Et même si l'application en elle-même est pas trop mal faite. Moi, j'étais assez agréablement surpris en jouant avec. Ouais.
Le pire, c'est que même les développeurs disaient, mais cette application, c'était une connerie, quoi. On était convaincus que ça servait à rien. Mais bon, visiblement, les gens aiment bien, donc on essaye. Ils ont levé 1,2 million de dollars quand même. 1,2 million de dollars pour dire yo. Bon, ouais. C'est un peu...
Et c'est pour ça que j'ai refusé d'installer cette saloperie, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et que toute l'énergie créative de ces développeurs, si elle était mise à disposition de recherches plus nobles, de choses qui comptent vraiment, je pense que le monde serait en meilleur état. Donc c'est la partie, moi qui deviens un vieux con qui dit ça, parce que franchement, ouais. Quand je vois ça, je me dis, bon, moi je vais essayer de mettre de l'argent, avec surtout avec ce nouveau fonds dont tu parlais, Patrick, dans des choses qui pourront éventuellement servir à quelque chose. Donc je me refuse de regarder Yo et la plupart des services de messaging ephemerals, parce que je sais pas comment ça se dit, des messages éphémères, parce que bon, c'est n'importe quoi.
Bon, je dirais que Snapchat, c'est pas tout à fait la même chose. C'est éphémère, mais c'est quand même pas...
Non, parce qu'eux, ils ont vraiment trouvé, surtout dans la population des jeunes, parce que je vois ma fille de 13 ans qui utilise Snapchat de façon assez intensive. Clairement, ils ont trouvé une fonctionnalité qui est très importante.
Yo, peut-être que ça deviendra un truc comme ça. Ça nous paraît débile aujourd'hui, mais... Bon, non, j'essaye, mais j'y arrive pas. C'est vraiment débile, yo. On est d'accord. C'est marrant 2 minutes. Et puis, tiens, je vais envoyer un petit yo à Corben, là. Hop. Juste pour l'emmerder. Alors, je sais ce qui va te plaire, en fait, Jeff. Des trucs complètement cohérents. Une application développée quand même par quelqu'un de sérieux, par Facebook. Une application vraiment intéressante qui s'appelle Slingshot. Qui, oui, bon, fait du truc éphémère. Mais là, ils ont trouvé... Le truc qui fait que ça va être un bon rival à Snapchat et qui est vraiment convaincant pour des utilisations intelligentes, c'est-à-dire que c'est une application de messaging, de chat, où vous ne pouvez pas voir la photo qu'on vous a envoyée avant d'en renvoyer une autre vous-même. Non.
Et
vous...
Facepalm.
Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc, mais comment est-ce qu'on... Ah, entre parenthèses, Corben m'a déjà répondu avec Yo. Attendez, je vais essayer de vous faire Yoifier. Ah merde, l'application a planté. On va voir s'il répond, vous attendrez. Donc, c'est vraiment le truc Slingshot. Pour voir la photo qu'on vous a envoyée, vous devez en envoyer une autre avant. C'est vraiment le truc, mais débilifère, quoi. Comment faire encore plus que la photo qui disparaît au bout de 5 secondes? C'est qu'on va faire la photo que vous voyez même pas avant d'en avoir... Enfin, non, mais n'importe quoi. Enfin, je sais pas. Soit on est tous devenus des vieux abrutis, comme tu disais, Jeff. Soit il y a un truc qu'on comprend pas du tout. Soit vraiment, c'est n'importe quoi.
Mais je pense, enfin, je vais prendre ton rôle, Patrick, je vais faire l'avocat du diable.
Vas-y.
je sais pas, c'est un peu comme, j'ai entendu tellement de fois cet argument de, mais c'est débile, pourquoi est-ce qu'on fait, c'est comme le coup des 140 caractères de Twitter. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se fixer une limite à l'heure de l'email où on peut envoyer des emails qui font des pages et des pages? Ou, pareil pour Snapchat. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de supprimer les photos alors que finalement, à part celui qui paye la bande passante et le stockage Amazon, enfin, ça coûte plus rien aujourd'hui d'envoyer des photos, quoi. Je pense qu'il y a une volonté d'essayer des trucs et puis, des fois ça marche pas, mais c'est pas grave. Et puis, si ça marche, banco, quoi. J'ai l'impression que Facebook, avec Slingshot, s'est dit, mais ce serait vraiment génial si on pouvait réussir à créer un peu d'interaction en imposant cette règle qui est complètement artificielle, mais finalement qui apporterait quelque chose de nouveau dans le paysage des apps d'interaction. Voilà, bon, ça y est, j'ai fini. Je sais pas si je vous ai convaincu, je suis pas complètement convaincu.
Écoute,
moi-même.
Si tu veux, ils ont essayé de racheter Snapchat, et Snapchat leur a dit non. Et donc, ils voient que depuis que Snapchat leur a dit non, ils ont continué à grossir. Et donc, c'est plus 3,3 milliards qu'il va falloir payer, c'est 5, 8, 10 ou 19, comme ils ont payé pour WhatsApp. Et donc, pour essayer de faire des économies, c'est de voir s'ils peuvent recréer le type de traction ou le type d'utilisation que Snapchat a. Et ils peuvent pas faire une copie conforme de Snapchat, donc ils ont essayé autre chose. Bon, in fine, je sais pas qui est-ce qui a son téléphone juste à côté du micro, mais on entend un buzz là.
Ah, pardon, c'était moi qui essayais qui espérais avoir le yacht Corben.
Tu vois comme quoi yacht c'est des conneries, ça va troubler notre podcast. Non mais franchement, honte à toi, Patrick.
Oui, je m'excuse. Voilà, c'est la faute à Yo. Mais bravo Thomas, t'as dit exactement tout ce que j'aurais dit, donc je n'en rajouterai pas. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que t'as dit. Jusqu'à la fin, quand t'as dit, je suis pas convaincu moi-même par ce que je dis. Donc,
non, mais je crois que c'est leur cinquième tentative, c'est ça, de faire une réponse à Snapchat. Bon, voilà, on a essayé celle-ci.
Ouais.
Donc,
Et Jeff, t'as tout à fait raison. C'est vraiment le but est d'essayer de rivaliser avec Snapchat parce qu'ils voient que ça continue à grossir. Donc,
Mais bon. Soit dit en passant, juste un dernier truc, le développeur que je suis voit ça quand même avec un petit peu un certain mal au cœur parce que c'est quand même une application qui est bien faite, qui est bien pensée. Enfin, il y a des choses en termes d'ergonomie dans l'app elle-même qui est pas mal faite, elle est directement disponible sur Android et iOS. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression par moment en voyant ce genre d'applications qui viennent des gros, genre Facebook et compagnie, que c'est de l'application jetable, quoi. Ils font un test et puis ils vont la laisser là et puis dans un an ils débrancheront tout et puis voilà, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de se dire qu'il y a autant d'énergie et d'inventivité qui est dépensée pour quelque chose qui ira pas forcément très très loin, mais bon, c'est comme ça.
Ça, c'est le cri du cœur du développeur.
Ouais, c'est ça.
Je comprends. Toujours chez Facebook, des scientifiques, enfin des data scientists, des scientifiques qui étudient les données, ont manipulé les newsfeeds, les fils d'actualité de 600 000 utilisateurs Facebook environ pendant une semaine. Et ils ont découvert que les émotions exprimées dans les flux d'actualité de ces utilisateurs influençaient leur état d'esprit et leur émotion plus tard, ce qui n'est pas excessivement surprenant, c'est-à-dire qu'ils donnaient, ils affichaient plus d'actualité ou de mise à jour de leurs amis qui avaient des émotions négatives à certains et plus de messages qui avaient des émotions positives à d'autres. Et ceux qui avaient reçu des émotions positives, ils étaient plutôt positifs une semaine plus tard. Ceux qui avaient reçu des émotions négatives, ils étaient plutôt négatifs. Rien de très surprenant là-dedans. Par contre, ce qui a été peut-être pas forcément surprenant, c'est que beaucoup d'utilisateurs ont été outrés par cette utilisation de leur flux et se sont sentis un petit peu comme des comment dire, comme des cobayes. Et ils ont vraiment été scandalisés par la chose. Alors évidemment, quand vous signez, enfin quand vous signez, quand vous cochez les conditions d'utilisation de Facebook, vous acceptez qu'ils fassent ce genre de choses. Il n'empêche, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu limite. Vous, ça vous gênerait qu'on fasse des expérimentations comme ça sur vous, de faire les cobayes pour Facebook? C'était en 2011, hein, donc c'était pas il y a si longtemps. Si vous vous dites, ah ouais, la semaine dernière, j'étais déprimé, c'est à cause de Facebook. Non, c'était il y a longtemps.
Jeff. Non, parce que de toute façon, tu as fait sûrement partie d'autres expérimentations de A-B testing qui ont été faites depuis le début de Facebook, sans que tu en aies conscience. Donc ouais. Objectivement,
ou même sur des sites web, hein.
Oui, parce que de toute façon, tout le monde fait de l'A-B testing aujourd'hui. Je veux dire, c'est la base, c'est la base de la validation des messages, de l'interface utilisateur, etc. Donc là, le fait qu'ils aient manipulé ton flux et éventuellement qu'ils ne t'aient pas montré certaines informations qui auraient pu changer la façon dont tu te sens, parce que c'était un peu le but de l'expérimentation, c'était couper les signaux négatifs, signaux positifs, et essayer de voir si ça a un impact sur toi. Donc il y avait quand même un petit peu de manipulation.
C'est ça.
Je pense que si tu es sur Facebook, mais que tu veux pas que tes droits à la comment on dit privacy en français encore ?
La vie privée,
quitte Facebook. Donc ouais.
D'accord. Voilà. Donc toi, tu dis ouais, bah c'est Facebook, c'est normal. Thomas, t'es dans le même état d'esprit ?
Je pense que je dis bah. C'est Facebook, plus rien ne m'étonne. Et donc d'accord, je suis très philosophe par rapport à ça.
D'accord.
Ouais, moi je me disais que c'était, enfin oui, c'est vrai que c'est partout, c'est là, et puis voilà, et puis Amazon te fait la même chose pour que t'achètes plus, et puis ça marche très bien, sinon ils le feraient pas. En même temps, c'est vrai que quand tu regardes le résultat final et que tu te dis que potentiellement t'étais peut-être un tout petit peu plus down que la normale à cause de Facebook, ça fait quand même un petit peu flipper, quoi. Ouais. Il y a quand même une part au fond de moi qui me dit
c'est un peu dur de se dire que
Facebook arrive à ce point-là à avoir ne serait-ce qu'un léger impact sur mon humeur. Mais bon, après, malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit, quoi.
En même temps, moi je me dis faut quand même faire un peu gaffe, quoi. Oui, on a des A-B testing tout le temps, oui machin, mais là enfin, au moins, évidemment, ils peuvent pas prévenir, mais enfin je sais pas qu'il y a un truc, parce que imagine tu manipules les émotions, en quelque sorte, hein. Tu manipules les émotions des gens. Si tu les rends plus heureux, ok, pas de problème. Si tu rends un mec un peu plus déprimé, je dis pas qu'il va forcément se jeter par la fenêtre, mais imagine qu'il ait été un peu déprimé, qu'il ait pas eu le moral et qu'il soit dit, merde, je vais pas faire ce truc sympa pour ma femme que je voulais faire, ou mes enfants, ils m'emmerdent, je vais pas les jouer avec eux ce matin. Enfin, ça peut avoir une influence sur la vie de quelqu'un, et même peut-être, on peut imaginer sur les 600 000 qu'il y en ait un qui ait eu des conséquences négative vraiment sur sa vie, quoi. Donc là, je comprends qu'on se dise les gars, merde, déconnez pas, quoi. C'est ce genre de choses, au moins, enfin je sais pas, prenez des précautions, je sais pas lesquelles, mais bon, je comprends aussi le fait que certains soient outrés. Un truc qui nous enthousiasme un petit peu plus, c'est un truc que m'a envoyé Ludovic, qui est donc qui travaille. Il me disait, full disclosure, je travaille pour Total, mais je voudrais te présenter cette initiative qui est plutôt intéressante. Et effectivement, c'est un truc qui est organisé par l'Epitech, qui est un hackathon, donc une soirée ou une nuit ou une, je sais pas combien de temps ça dure, de hack pour que des étudiants de l'Epitech, j'imagine, ou peut-être même juste des hackers tout court, se mettent à essayer de créer des programmes ou des fonctionnalités avec des API, des données, des accès développeurs à certaines informations fournies par des sociétés comme Total, Bouygues, Canal TP ou d'autres. Et ce que fournissent les sociétés, c'est des informations, chez Total notamment, il m'en a parlé parce qu'ils connaissent ce sujet plus que les autres, mais c'est des informations sur les emplacements des stations-service, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, le Total Map Store, le Total Gonflage, qui vous donne des informations sur l'offre de gonflage disponible dans les stations Total, le Total Lavage, enfin bref, tout un tas de données qui a priori, localisation des lavages de voitures, etc., qui a priori, on ne sait pas si ça sert à quelque chose ou pas, mais l'idée c'est de donner toutes ces données qui sont pas accessibles par ailleurs, qui sont développées spécialement pour cette opération, et de voir ce que les gens peuvent en faire. Donc voilà, moi, je voulais juste en parler parce qu'effectivement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Comme souvent, l'épithèque participe à ce genre de choses et c'est bien qu'on ait ce genre d'expérience dont on disait, on ne sait pas ce que ça va donner en parlant de Yo tout à l'heure. C'est bien qu'on ait ce genre d'expérience auquel participent des grandes entreprises. Il y a aussi Microsoft d'ailleurs dans le lot qui fait souvent partie de ce genre de choses. Évidemment, c'est un coup de pub pour eux, hein, faut pas se leurrer. Mais en même temps, ça développe cet esprit de hack, de programmation, de d'essai et d'envie de l'informatique. Et je trouve ça pas mal, donc je voulais le signaler. Et entre parenthèses, le gouvernement participe aussi avec, je crois que c'est le ministère de l'économie. Donc voilà. Thomas, j'imagine que ça te parle, ce genre de choses. C'est des trucs que tu trouves plutôt sympas, les hackathons en général.
Ouais, carrément. Plus il y a de données disponibles et plus il y a des petits développeurs dans leur chambre qui peuvent faire des applications qui rendent service aux gens. Donc,
c'est
ouais,
ça.
Complètement.
Donc une bonne chose. Une chose que je voulais signaler aussi, c'est le fait que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis allez 3 mois jusqu'à il y a maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a tous les jours des annonces sur le fait que SFR réduit le prix de vos tarifs de roaming et de vous ajoute dans votre forfait des communications en Europe, et voilà, l'Europe coûte moins cher, l'Europe coûte comme ci, comme ça. Et on a tendance à se dire, ah ouais, c'est sympa quand même, les prix baissent, ils sont commercialement, ils y vont fort et tout, c'est bien. Ne vous laissez pas leurrer. C'est des législations de l'Union européenne qui forcent les opérateurs à réduire les prix. Donc voilà, c'est juste un petit coup de gueule. Évidemment, ils le présentent de cette manière, mais s'il n'y avait pas la législation qui les obligeait à le faire, eh ben, ils ne le feraient pas. Donc voilà, moi je voulais juste le signaler pour que vous soyez au courant. Je vous disais tout à l'heure, Patreon, on allait en reparler. Là, non pas pour le Patreon du Rendez-vous Tech, mais d'une manière beaucoup plus large. Ils ont levé 15 millions de dollars pour continuer à développer le site. Pour ceux qui connaissent pas, je sais pas d'où vous sortez, mais Patreon, donc c'est un site de crowdfunding qui vous permet de donner de l'argent de manière régulière, soit par mois, soit par création. Ça sert à aider les artistes ou les créateurs de contenu. Donc moi, en l'occurrence, mon Patreon permet aux gens de donner une certaine somme, hein, 2-3 dollars ou plus, comme le fait Thomas, pour soutenir l'émission à chaque épisode qui sort. Et là, donc, ils vont pouvoir continuer à se développer. Et j'ai regardé donc l'annonce et j'ai beaucoup discuté avec les gens de Patreon et je suis vraiment enthousiasmé par ce développement qu'ils ont et cette possibilité de continuer à pérenniser leur offre, non pas parce que moi ça me sert très égoïstement, même si bien sûr c'est très lié, mais surtout parce que Patreon, c'est la promesse d'un business model différent sur Internet. C'est-à-dire que, comme ils le disent très bien chez eux, et c'est ce que je disais quand j'ai lancé mon Patreon, il y a sur Internet un seul business model qui prévaut, un seul modèle d'affaires qui existe, c'est le modèle d'affaires de la pub. Et ça, ça a des conséquences énormes, pas forcément négatives, mais qui façonnent notre Internet. C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne peut vivre que par la pub sur Internet, il faut forcément faire des choses qui plaisent au plus grand nombre, parce que avec la pub, c'est tellement peu rentable pour les annonceurs qu'ils vont vous payer très très peu pour une personne qui va entendre votre message ou regarder votre message. Donc, il faut faire des choses qui vont toucher énormément de monde. Et donc, ça veut dire que ça a des conséquences énormes pour les, notamment les, enfin ça se voit partout, pour les blogs par exemple, ils vont vous sortir 40 000 news à la seconde parce que sinon ils peuvent pas vivre quoi. Ils sont obligés de faire énormément de page vue, page vue, page vue, c'est l'obsession de la page vue et c'est encore une fois le business model d'Internet. Eh ben ce business model évidemment ne va pas disparaître, mais moi ce que j'espère, c'est que grâce à cette initiative de Patreon et d'autres certainement qui rejoindront ce type de philosophie, on pourrait avoir, en parallèle de ce business model de la pub en permanence partout, la possibilité d'avoir des contenus qui sont créés grâce aux gens qui veulent soutenir ceux qui créent ces contenus, d'avoir des gens qui payent pour soutenir des contenus qui sont disponibles gratuitement, comme c'est le cas du Rendez-vous Tech. Et cette promesse est un vrai, est quelque chose de vraiment qui va disrupt, qui va changer l'ordre établi s'ils y arrivent. Donc là, ils ont 15 millions pour continuer à essayer. J'espère qu'ils réussiront. Moi, évidemment, j'espère qu'ils vont réussir parce que ça m'impacte directement. Mais je continuerai à les accompagner dans ce domaine parce que c'est une chose à laquelle je crois vraiment et que j'espère qu'il va réussir. Bon, voilà, quelque chose à ajouter sur le sujet, non ? Je crois pas.
Si. Non, c'est super. Et le fait qu'ils aient réussi à lever autant d'argent, parce que 15 millions de dollars pour un Series S, c'est vraiment très notable. Donc, et j'ai des copains qui étaient les investisseurs au niveau seed, Freestyle. Et effectivement, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de grossir très, très vite. Donc, c'est super positif de voir qu'un nouveau modèle pour le contenu est en train de se développer. On verra ouais. si ça, en gros, la façon dont ils le présentaient, c'était un peu le Kickstarter ou l'Indiegogo du contenu. Mmh. Donc, je pense que c'est vraiment super.
Ouais. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une chose qui m'a vraiment marqué que Jack Conti, qui est lui-même un artiste, hein, qui est le fondateur de la société, disait, il parlait du fait que certains investisseurs lui disaient, bon écoute, aujourd'hui vous prenez 5% des sommes que vous rentrez, si vous montiez à 10 ou 15%, vous pourriez tripler votre revenu immédiatement. Et lui disait, ben non, c'est pas l'idée de Patreon. Moi, je suis un artiste, je veux donner autant d'argent que possible aux créateurs. Et évidemment, ça leur bénéficie et ça nous bénéficie aussi au final parce que nous, plus il y a de créateurs, plus on va rentrer d'argent. Mais l'idée, c'est vraiment d'en donner autant que possible aux créateurs. Et lui, Jack Conti, comme je le disais, c'est un artiste. Il fait de la musique tout seul. Il fait de la musique avec Pamplemousse, que vous connaissez peut-être, qui est assez gros sur YouTube. Lui et Nathalie Dawn, qui sont les deux moitiés de Pamplemousse. Mais il y a vraiment une philosophie. Alors peut-être que je me trompe, qu'ils montent bien leur image, mais j'ai pas l'impression. Il y a une vraie authenticité dans cette démarche. Et c'est quelque chose qui est très enthousiasmant. Donc on continuera à voir ce que ça donne. Netflix en France, on a encore deux ou trois news avant de refermer l'épisode. Netflix, c'est Netflix mais version russe. Netflix en France, non, ça vous fait pas marrer, ok, bon, je sors. Netflix en France, quelques détails. Donc on aura un abonnement à 7,99€ a priori, hein, c'est des rumeurs mais ça a l'air de se confirmer. 7,99€ pour un flux en SD seulement, 8,99€ pour avoir deux flux en HD et pas de flux HS comme je l'ai écrit dans les notes de l'émission. Les flux HS, ça serait quand même cher, 8,99€. Donc évidemment, le but serait de vous faire prendre l'abonnement à 8,99€. Deux flux HD en même temps, un à la maison, enfin, un sur la télé, un pour les enfants qui regardent, je sais pas moi, Cars pour la 14e fois. Et un autre abonnement à 11,99€ pour 4 flux en HD. Les films devront obéir au fenêtrage, aux fenêtres de sortie. Donc les films ne seront disponibles que 36 mois après leur sortie en salle. Et il y aura 80% de production américaine et 20% de production européenne. Donc on aura quand même, il y a un minimum de production européenne qui sont demandées. Bon, moi vous le savez, même s'il n'y a pas forcément toutes les choses que je voudrais dans la version française de Netflix, je pense que là encore, je prendrai un abonnement parce que, ne serait-ce que pour soutenir ce type d'initiative, et puis à vrai dire, ne serait-ce que pour les séries qu'ils produisent chez Netflix parce qu'elles sont plutôt bonnes. J'imagine que vous avez tous les deux Netflix, non ?
Si t'as Amazon Prime, oui. Si t'as Amazon Prime, en France, tu n'as pas la quasi-totalité du catalogue Netflix ?
Non, bah le catalogue Netflix propriétaire, il est pas sur Amazon Prime.
Oui, bien sûr. Oui, non, enfin mis à part les quelques séries qui sont propriétaires, auquel cas si tu veux Orange is the New Black ou House of Cards aux États-Unis, effectivement, tu dois forcément être sur Netflix, mais autrement, tu regardes entre Amazon et Netflix, tu as un peu la même chose quoi.
Donc c'est pas faux. C'est pas faux, mais à vrai dire, il y a en plus de ça des séries Marvel qui sont en train d'être produites par Netflix, et celle-là, je pense que c'est celle qui me ferait, en plus de House of Cards et d'autres, qui me convaincrait de me dire, bon, 10€ pour soutenir Netflix, si en plus c'est très innovant, allez, j'y vais.
Moi, j'avais une question, Patrick. Du coup, mis à part le catalogue spécifique à Netflix, comment ça se positionne en termes de prix par rapport à la compétition ? Parce que du coup, j'ai plus trop en tête ce qu'il y a. Je sais qu'il y avait Canal Play à une époque qui proposait de la VOD, mais qu'est-ce
qui... Ouais, il y a Canal Play Infinity qui moi m'a pas vraiment convaincu. J'ai regardé un petit peu leur catalogue, j'étais pas 100% convaincu quoi. Mais je l'ai pas regardé Netflix, depuis un moment, peut-être que ça a changé.
Netflix, ce serait vraiment la seule alternative, enfin la seule offre all you can eat en France en fait.
Bah non, il y a Canal Play Infinity qui fonctionne aussi, hein. Mais il faudrait, en fait, j'ai l'espoir que Netflix soit intéressant. Ça se trouve, ils vont arriver et je vais regarder leur catalogue. Je vais pas être convaincu non plus, mais j'ai l'espoir. Il faudra attendre qu'ils soient là pour être vraiment convaincu, on va dire.
Ok.
Les Allemands, ces chers Allemands qui se battent contre Google, vous savez qu'on a eu de gros problèmes avec les éditeurs de journaux en France et en Belgique qui essayaient de faire payer Google pour afficher leur contenu sur Google News, sur Google Actualité. Aujourd'hui, plutôt que de pouvoir être retiré de Google, les publishers, les éditeurs allemands demandent 11% du revenu généré par les pages affichées avec leur contenu. A priori, moi, j'ai toujours tendance à me dire « Ah, mais n'importe quoi !» Mais en fait, si le contenu est généré par ces pages-là où il n'y a enfin que du contenu des éditeurs de journaux et qu'ils ne demandent que 11% des revenus générés par ces pages-là, est-ce qu'on n'arrive pas à quelque chose qui serait plus ou moins raisonnable ? Je ne sais pas. Je vous pose la question.
Non, parce que c'est sur le site de Google, donc et c'est toujours c'est pas le contenu, c'est des bouts de contenu. Donc et la question c'est quelle est la valeur du clic sur ce contenu qui est offert à ce publisher. Donc c'est
oui, tu veux dire qu'ils sont déjà ils sont déjà payés par le fait qu'on leur renvoie des clics, quoi.
Oui, parce que le fait qu'ils soient exposés sur la première ou deuxième page de Google, ça a aussi une valeur.
D'accord. Bon.
Donc, s'ils voulaient vraiment être juste, ce serait peut-être un certain pourcentage moins le revenu qui a été généré par le clic qui est venu sur le contenu, etc., etc.
Donc, d'accord, bon. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, ils génèrent aussi eux-mêmes de leur côté du revenu grâce aux clics qui leur sont envoyés par Google. Mm-hmm. Donc, grâce aux gens qui vont chez eux parce qu'ils les ont vus chez Google. Donc, effectivement, pas bête. Effectivement, j'avais pas
sachant que ce que Google va vraiment essayer de trouver au travers de ses algorithmes, c'est le contenu original. Et c'est ce qui s'est passé avec la dernière réorganisation de l'index Google, donc le dernier Panda. Où il y a énormément de sites e-commerce qui ont disparu de l'index quasiment, donc eBay, Ask, etc. Parce que il y avait pas de contenu original. Donc c'est vrai que le premium va au contenu original, ce qui veut dire qu'ils vont être plus haut dans l'index, ce qui veut dire qu'ils vont recevoir plus de clics et plus de trafic. Donc bon.
D'accord. Très bien, merci pour ces précisions. Allez, on avait plein d'autres petites choses à dire, peut-être avec YouTube qui veut éliminer les labels indépendants de son service de streaming All Access qui sera lancé bientôt. C'est en fait un petit peu plus compliqué que ça, mais on va pas rentrer dans les détails. Plein de rumeurs encore sur la smartwatch d'Apple avec 10 sensors, 10 capteurs d'une recharge sans fil, etc., etc. Là aussi, on va passer dessus rapidement. BlackBerry qui fait des profits, pas énormément, 23 millions, mais quand même, qui fait des profits. Donc, on avait enterré BlackBerry. Ils sont encore là et ils ont aussi un partenariat stratégique avec Amazon pour avoir des applications de l'Amazon Store sur les BlackBerry. Ça devient un petit peu compliqué, mais pourquoi pas. Mais je voulais finir avec quelque chose de bien français quand même, malgré tout, avec les extensions des URL. Vous savez qu'on a des nouvelles extensions avec .paris, je sais pas moi, il y a toujours .canon, je sais pas pourquoi, qui vient à l'esprit pour la marque d'appareils photo notamment. Et il y a .20 qui va être disponible, et Axel Lemaire a posé carrément un ultimatum à l'ICANN, qui est l'organisme qui gère toutes ces extensions. Merci d'ailleurs à l'affreux poète sur Twitter, son nom c'est Facebox, mais son Twitter c'est l'affreux poète, qui m'a signalé cette info. En fait, Axel Lemaire a posé un ultimatum à l'ICANN parce qu'elle dit si vous donnez accès à n'importe qui à .20 ou .wine, 20 en anglais, eh bien, ça peut poser d'énormes problèmes parce que les gens à qui vous donnez accès à ces extensions ne vont peut-être pas respecter les législations en vigueur. Par exemple, si quelqu'un obtient champagne.20, eh bien, ces gens-là ne sont pas tenus de respecter le fait qu'on ne peut vendre sous l'appellation champagne que des vins qui viennent de la région Champagne. C'est une appellation d'origine contrôlée, c'est très réglementé, ça donne lieu à énormément de débats au sein de l'Union européenne et ailleurs. Mais là, c'est un petit peu le débat qui revient sur Internet. C'était intéressant de lire la chose, à quel point ces petits sujets qu'on semblerait anodins, qui sembleraient anodins, on se dit, bon bah, ok, point 20, pourquoi pas, et ont des conséquences sur énormément d'autres domaines de l'économie, quoi. Est-ce que vous, en tant que Français expatrié, qui avez quand même une certaine fierté française, d'ailleurs, entre parenthèses, à propos de fierté française, Jeff, toujours 0-0 ?
Oui. Toujours 0-0. Okay. Le gardien algérien fait quelques arrêts très impressionnants. Donc, encore à peu près 20 minutes, et après, c'est les prolongations.
Ok, bon, très bien. Merci de l'info. Donc, vous qui êtes des Français expatriés, est-ce que c'est des choses qui vous préoccupent, ça, les conséquences du point 20 de l'ICAN pour les AOC bien françaises ?
Non, parce que j'étais même pas au courant, j'avais même pas entendu qu'il y avait point 20 et point wine. Mais effectivement, imagine s'il y avait point champagne et tous les problèmes que ça pourrait créer en termes de ma tension, puisqu'il y a le champagne américain n'existe pas, c'est la méthode champenoise.
C'est ça.
Sachant que de toute façon, ils savent pas vraiment faire le champagne ici, donc le fait que ça s'appelle pas champagne, c'est pas un problème parce que de toute façon, ce que tu bois, c'est de la piquette.
Bah oui, non, mais c'est ça. Mais imagine qu'on puisse acheter. Tu dis, ah bah là, j'achète un champagne. En fait, rien du tout. C'est un truc qui est fait, je sais pas, en Californie.
Oui, je comprends bien. Oui. La seule méthode champenoise que j'aime bien ici, c'est fait par des Français dans la Napa Valley.
Ah, bah voilà, les Français, toujours eux. Thomas, toi, ça te préoccupe pas tellement ces histoires?
Ouais, je bois pas beaucoup d'alcool, mais c'est vrai que le vin pétillant qui est estampillé champagne, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu rigoler. Mais au-delà de ça, il y a à mon avis, il y a deux mondes qui se rencontrent là avec cette histoire d'extension et de d'AOC. Moi, je me disais, la réflexion que j'avais en fait, c'est que bah, finalement les AOC, enfin le concept d'AOC aurait peut-être besoin d'être révisé, quoi. Pas forcément de disparaître, mais à mon avis, ça vaudrait le coup de se reposer la question de qu'est-ce que c'est une AOC aujourd'hui à l'heure d'Internet et à l'heure justement des noms de domaine, de la visibilité sur Internet, etc., quoi.
C'est complètement vrai. Tu as tout à fait raison.
Je pense que tu ouvres une boîte de Pandore là, que tu n'imagines même pas. S'il y a des gens qui sont dans ces domaines qui nous écoutent, je suis convaincu que ça a déjà provoqué énormément de problèmes, ne serait-ce que par exemple avec des sites d'e-commerce qui sont pas domiciliés dans des... Là, j'imagine, hein, mais je suis sûr que c'est le cas. Ils ne sont pas domiciliés dans des régions du monde où ce type de législation doivent être respectées, mais qui vendent dans des régions du monde où elles doivent être respecter, je suis sûr que ça a déjà posé d'énormément de problèmes. Et t'as pas tort, Thomas, c'est deux mondes qui se rencontrent, mais à mon avis, ils sont déjà rencontrés à de multiples reprises. Donc,
Ouais, bien sûr. Et finalement, j'ai envie de dire, tout le monde est un peu dans son rôle. Enfin, l'ICAN, la réaction...
C'est vrai.
Ce que fait l'ICAN, c'est pas non plus surprenant, et la réaction d'Axel Le Maire est normale, quoi. Mais c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment ces gens-là vont réussir à se mettre d'accord s'ils y arrivent, quoi.
C'est vrai. C'est vrai que quand les gens de l'ICAN ont dû recevoir le coup de fil d'Axel Le Maire, ils sont que là c'est vraiment les deux mondes. Ils ont dû dire mais de quoi elle nous parle elle.
Et puis t'es qui toi la ministre de l'internet de what.
Voilà, bon, ça, allez. Nous dire mais de quel droit vous arrogez le droit de savoir à qui le point 20. Enfin pourquoi est-ce que c'est à vous de décider qui a le droit d'utiliser le point 20 ou pas quoi. Et on peut leur dire bah c'est nous qui avons inventé le vin, enfin ça va être intéressant à suivre.
Bien sûr, c'est pas nous qui avons.
Je vais devoir vous laisser parce que ça fait 4 minutes que j'aurais dû jumper sur un autre appel. Là. Donc
bon, en plus comme d'habitude, on finit où on peut te retrouver sur internet, Jeff?
Sur @Jeff, c'est le plus simple.
Très bien, @Jeff sur Twitter. Merci d'avoir été avec nous
et à bientôt, et on se retrouve dans un mois.
Super. Ciao. Merci Jeff, bonnes vacances.
Ciao.
Ciao.
Et donc Thomas, puisqu'on termine effectivement, c'était le dernier sujet dont je voulais parler. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et suivre des nouvelles de léthargique panda, qui est l'un de mes surnoms préférés, le panda léthargique sur Internet.
Tu l'as dit. Donc, je suis athlétargique. Du coup, c'est en anglais, donc c'est avec un C.
Ouais.
Athlétargique Panda sur Twitter. Et puis, bah, c'est à peu près tout, en fait. C'est principalement là où je poste des choses.
D'accord. Super. Bah écoute, merci beaucoup à toi d'être venu. Pour ma part, vous savez, je suis NotPatrick sur Twitter, mais surtout, surtout, entre parenthèses, j'ai des pages Facebook et Google Plus aussi, hein, facebook.com/NotPatrick. Et surtout, si vous voulez laisser des commentaires, nous dire ce qu'on a dit d'intéressant ou d'idiot, vous pouvez le faire sur le site qui héberge toutes mes émissions, c'est-à-dire frenchspin.com. Vous y retrouvez évidemment les notes du rendez-vous tech et le lien vers The Internet's Own Boy, le film dont je parlais tout à l'heure sur Aaron Schwartz, donc dans les notes de l'émission du Rendez-vous Tech sur frenchspin.com. Et voilà, et c'est tout. Et donc Thomas, merci d'avoir été dans l'émission. Merci, bien sûr, triplement, quadruplement de ton grand soutien sur Patreon. J'espère que tu as passé un bon moment quand même.
Ah ouais, merci, ouais, j'étais ravi de vous joindre. Et du coup, bah, la chose négative, c'est que je me ruerai pas sur l'épisode pour le télécharger, parce que je sais déjà ce qu'il y a dedans, donc je sais pas si je l'écouterai. C'est le seul point négatif de participer à l'émission, mais sinon à part ça, j'étais ravi. Donc merci pour
Bon,
l'invitation.
bah écoute, merci en tout cas à toi aussi de nous avoir apporté ton éclairage de développeur sur tous ces sujets. Je trouve que tu t'es encore une fois, comme tous les autres finalement animateurs débutants, pas trop mal débrouillé. Je trouve que c'était
Merci.
plutôt convaincant. Donc merci d'avoir été là. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, d'avoir supporté nos bêtises. Et on vous donne donc rendez-vous dans un autre épisode dans 2 semaines à peine, si tout va bien. J'espère que je serai revenu en un morceau des États-Unis. Et d'ici là, on vous fait tout plein de grosses bises. Ciao à tous!